Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune, Christophe Jubien pour vous accueillir à bord de l'émission Libre Propos, l'émission hebdomadaire de Radio Rancière, qui vous permet d'entendre la parole de notre évêque, Monseigneur Christori, sur des questions d'actualité internationale, nationale, locale et sociétale ou ecclésiale d'ailleurs. On va parler aujourd'hui de votre premier anniversaire épiscopal, bon anniversaire.
Bonjour Christophe, merci de me le souhaiter. C'était effectivement le lundi 15 avril.
C'était le lundi 15 avril. Un an déjà. Ça fait un an que nous faisons des émissions. Le temps a passé une vitesse extraordinaire.
Un an à ce micro et avec joie. Et je salue bien volontiers ceux qui écoutent, en espérant qu'ils sont nombreux. N'hésitez pas d'ailleurs un jour à écrire à Radio Grand Ciel et demander des sujets, des questions auxquelles je pourrais répondre.
Oui. Vous pouvez le faire donc sur mon adresse mail de Radio Grand Ciel, christophe.jubien@radiograndciel.fr. Vous pouvez aussi écrire au 22 26 avenue d'Aligre, 28000 Chartres, si vous pratiquez encore le papier et l'enveloppe. Monseigneur, donc ce premier anniversaire épiscopal, c'est aussi l'occasion évidemment de parler de ce que vous avez vécu pendant un an, de votre découverte de ce diocèse qui est plutôt rural, on va dire, mais enfin, quand même, qui a aussi une partie urbaine, notamment à Dreux. Alors, comment vous avez vécu cette année parmi nous ?
D'abord, elle est passée vite, un an déjà, mais quand je relis l'agenda, il a été très rempli de visites pastorales, de célébrations très nombreuses, de fêtes locales, de rencontres dans des fermes, de salariés d'entreprises, et puis de rencontres absolument imprévues dans des lieux très différents, la rue, les bistrots, le FAC, le foyer d'accueil Chartrain, par exemple, où j'étais très bien reçu aussi. Enfin, des tas de lieux que j'aime côtoyer parce qu'ils me donnent à voir ce que vivent les gens. Donc c'est une année très remplie de rencontres, même si j'ai quand même passé du temps à travailler sur des textes, préparation des homélies, des interventions, parce que un point que je découvre quand on est évêque, c'est qu'on parle beaucoup. Alors j'aime parler, peut-être trop d'ailleurs, mais on me demande beaucoup de parler. C'est-à-dire que partout où je vais, il faut dire un mot, quelque chose, donc je parle.
Oui. Vous avez rencontré aussi une vie chrétienne intense dans les paroisses.
Alors, je dirais que oui, il y a une vie dans les paroisses qui est vivante, avec des équipes pastorales qui sont autour des curés et des équipes de prêtres. Et ça, je m'en réjouis. Ces équipes, elles ont comme but d'encourager, de soutenir les initiatives, les réalisations des laïcs, des paroisses. Hein. Ce n'est pas elles qui doivent tout faire. Elles doivent encourager, soutenir, promouvoir. Maintenant, j'ai conscience que ces communautés chrétiennes sont des groupes minoritaires dans les populations locales, qui sont par tradition chrétienne, puisqu'une majorité de réliens sont des gens baptisés catholiques, mais tous ne participent pas, même si beaucoup retrouvent l'Église pour un mariage, pour un baptême de bébé, pour des funérailles d'un proche. Donc ils sont sensibles. Les maires, par exemple les élus, m'ont toujours fait un très bon accueil et m'ont montré combien c'était important pour eux d'avoir un curé pas loin, d'avoir une église en état. Ils font beaucoup pour eux. Les entretenir, elles dépendent des communes, donc ils font l'effort qu'il faut et je les remercie vraiment.
Ouais, il n'y a pas de village français sans église, je veux dire. C'est très rare. Hein. Ça fait partie du paysage, si j'ose dire, comme on dit.
Oui, alors c'est souvent ça. Alors, bien sûr, j'appelle de mes voeux que l'église soit juste un décor. Elle est un lieu de vie, un lieu de rencontre du mystère de Dieu. Donc, même si elles sont très belles, elles sont souvent très belles d'ailleurs dans
oui, c'est ce que vous avez dit. Vous avez trouvé que les églises étaient belles tout à l'heure.
Elles sont belles, ces églises, hein, et parfois très entretenues, donc c'est une chance.
Une chose qui est importante, c'est évidemment les finances du diocèse, parce que quand on arrive, quand on est un nouvel évêque, il faut absolument commander un audit. C'est automatique d'ailleurs, je crois. Alors cet audit, il s'est terminé il y a peu de temps. Qu'est-ce qu'il raconte sur nos finances ?
Bah, d'abord, un audit, c'est donc des gens qui viennent nous conseiller, donc des gens qui ont un peu d'expérience de gestion d'un diocèse. Et moi, j'étais favorable quand on m'a proposé que des gens viennent, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un regard extérieur sur ce qu'on vit. Et ils ont rencontré beaucoup de personnes, ils ont écouté beaucoup de monde et ils ont fait un bilan qui, pour partie, est très positif, pour partie, est attentif à des points de progrès, on peut dire. Voilà. Ce qui a été noté, c'est que, par exemple, ils m'ont dit, vous avez un beau groupe de prêtres assez jeunes, vous avez des locaux de qualité pour travailler. Il y a bien sûr cette magnifique cathédrale au milieu qui attire tout le monde. Maintenant, on ne m'a pas caché que les finances sont un peu préoccupantes, parce qu'on n'a pas de réserve, comme on dit. Donc, pas de trésorerie beaucoup en avance, avec beaucoup de gens qui attendent quand même un salaire. Donc, il faut qu'on soit sérieux. Maintenant, je ne suis pas dans l'inquiétude, parce que de tempérament, je pense que ça ne sert à rien d'être inquiet. Ce n'est pas ça qui fait venir l'argent. Par contre, je me dis que voilà, si on arrive à fédérer l'ensemble de nos salariés bénévoles sur un grand projet missionnaire qui rejoint les gens, les périphériques, qui prend soin des gens malades, comme on le fait en prison, comme on le fait en hôpitaux, comme on le fait aussi dans les écoles, en rejoignant les enfants des écoles catholiques, il y aura, chez les chrétiens en tout cas, assurément un élan du cœur, une satisfaction, et ils vont contribuer plus largement au denier de l'Église, par exemple, qui est la ressource numéro une de l'Église. Oui. Donc je ne m'inquiète pas, mais je prends avec sérieux cet audit qui m'encourage aussi à bien structurer l'accompagnement des salariés, les embauches, les fins de mission des salariés aussi, les formations qu'ils peuvent vivre pour s'enrichir et être plus compétents. Donc tout ça, c'est à la fois en cours et à venir.
Ouais. Ce qui vous paraît encourageant, je crois, c'était notamment l'importance, finalement, l'affluence dans les grandes fêtes chrétiennes, notamment la Vigile Pascale, par exemple. Il y avait énormément de monde dans la cathédrale. Ça, c'est quand même une base sur laquelle travailler, finalement.
En tout cas, j'ai eu l'écho par quelques curés ou laïcs que les églises ont été quand même bien remplies pour les fêtes de Pâques. Alors, c'était le cas des Rameaux, déjà, une grande fête très populaire, les Rameaux. Mais très surpris de la Vigile de Pâques, qui est une célébration qui est longue. Hein. À Chartres, ça a duré 3 heures avec des baptêmes et très belle liturgie. C'était magnifique, les chants, grâce entre autres à la communauté du Chemin Neuf, qui est animée avec beaucoup de talent. Le lendemain, grand messe du dimanche de Pâques, animée par la maîtrise de Chartres. Il manquait quasiment 200 chaises, donc on était très nombreux, plus que d'habitude. J'ai vu bien sûr bon nombre d'étrangers qui étaient de passage. J'ai vu quelques Parisiens venus passer un bon week-end ensoleillé à Chartres. Mais globalement, les gens étaient présents. C'était très beau, oui. Très heureux.
Je m'excuse de le dire, mais est-ce que l'incendie de Notre-Dame de Paris ne fait pas que finalement, une partie des Français se sont souvenus des racines chrétiennes de leur pays ?
Alors d'abord, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais cet anniversaire de ma première année, elle tombe le jour de l'incendie, puisque j'ai célébré une messe à 18h15 le lundi 15 avril pour rendre grâce à Dieu pour cette année et que le feu a démarré pendant cette messe. Après, nos deux lieux de culte sont assez liés. Les deux sont consacrés à Marie Notre-Dame. Beaucoup de pèlerins partent de Paris et vont à Chartres. Ces deux lieux n'ont pas concurrent du tout, mais d'une même beauté, et dans la mémoire collective des Français, Chartres et Paris, les gens se rappellent de ces lieux, de ces cathédrales qui sont au-delà d'un bâtiment et donc d'un bien patrimonial, bien sûr rappellent une histoire assez riche et chrétienne, mais sont le lieu aussi où l'on appréhende le mystère de Dieu, où on rentre à Chartres dans ce lieu priant, magnifique, et tout est fait pour que celui qui rentre, notamment les vitraux, la lumière vient de dehors et permet à ceux qui rentrent de découvrir là, à travers la beauté, le message, qu'il y a quelqu'un, qu'il y a un au-delà, qu'il y a plus grand que nous. Ça invite au silence, ça invite à l'humilité, ça invite aussi à parler à Dieu, à lui dire, Dieu, je te fais confiance, je te cherche, voilà, viens vers moi. Donc c'est très beau.
Ouais. Vous avez d'ailleurs un projet, Chartres, la cathédrale 2024, qu'est-ce que c'est exactement ?
Oui, c'est un projet qu'on pourrait appeler Mission Chartres 2024. C'est en 1024 que l'évêque Fulbert réalise notamment la crypte. La crypte est en dessous de la cathédrale, elle est la plus longue des cryptes au monde. Elle fait 250 mètres de long. Elle fait bien sûr une boucle, mais elle est très longue. Et on a une lettre de l'évêque Fulbert qui parle de la crypte dont les enduits sont en train de sécher, et c'est daté 1024. Donc, on va fêter les 1000 ans de la crypte en 2024. Et j'aspire de mes voeux à une grande année à la fois missionnaire par l'accueil des gens, des pèlerins. On voudrait que tant des gens d'Eure-et-Loir reviennent en pèlerinage à Chartres que des gens de l'Europe entière, voire du monde entier. Et puis, on peut, à travers cet événement, exprimer beaucoup de la foi chrétienne. On peut aussi développer une dimension plus culturelle, faire mémoire de l'histoire. Enfin, plein de projets sont possibles.
Ouais. Vous souhaitez en tout cas donner un élan missionnaire à la vie diocésaine. Hein.
Oui, parce que je vois que la société est faite de gens de bonne volonté, globalement, mais qu'elle souffre. Et elle souffre pas seulement parce qu'il y a une précarité matérielle, mais pourquoi vivons-nous? Quel sens ça a? Les gens passent d'un job à un autre job, les gens déménagent souvent pour ces raisons-là. Parfois, la famille, elle part un peu en morceaux. Qu'est-ce qui motive, enfin, quel motif de joie et d'espérance avons-nous? Et on se rend compte que la consommation un peu effrénée n'apporte pas de réponse à ça. Je parlais avec des gilets jaunes récemment qui m'ont dit « Mais nous, on ne veut plus acheter tous ces produits qu'on voit en tête de gondole, quoi. Ça sert à quoi ? On préfère le partage. » Et le Christ, Jésus, nous invite à cette fraternité, à ce partage de vie. Je pense que son message est très pertinent, l'évangile est très pertinent. Alors, peut-être que dans l'Église, on n'est pas tous les meilleurs témoins de cet évangile, et pardon pour ça, parce qu'on a blessé des gens. Je parle bien sûr des victimes de quelques prêtres pédophiles, mais aussi dans le quotidien, on n'est pas les plus aimants toujours, quoi. Et pourtant, on porte un trésor en nous. Comme dit saint Paul, nous sommes des vases d'argile fragiles, mais nous portons un trésor, il faut l'annoncer, il faut le dire aux gens, ils ne le savent pas toujours. On ne leur en parle pas forcément.
L'annoncer en tout lieu, notamment en prison. Vous êtes allé au centre de détention de Châteaudun récemment. Pouvez-vous nous parler de cette rencontre ?
Je suis allé le jeudi saint célébrer une liturgie avec le lavement des pieds, donc le signe que fait Jésus quand il lave les pieds des apôtres, un geste d'esclave. C'était très sympathique, on était une trentaine de personnes. Mais j'ai vu aussi le directeur Claude Longombé, pendant une demi-heure avec ses adjoints. Cet homme a été très accueillant. Il m'a dit entre autres que l'homme n'est pas fait pour garder l'homme. Et donc, c'est une mission difficile à l'heure, et je conçois bien. Mais il m'a dit la vraie sécurité, c'est le regard positif de l'autre sur chaque individu. Et il m'a même parlé de l'amour de l'autre, manifester de l'amour pour le prisonnier. Ce qui est un terme assez fort, on pourrait dire assez « catho », entre guillemets, mais qui désarme les violences et qui fait exister l'autre. Je pense qu'il faut qu'on croisse tous dans ce regard, l'un pour l'autre, avec respect et enfin, ça m'a touché d'entendre cet homme. Il était profondément humain et intéressant.
Ouais, vous avez pu échanger également avec quelques prisonniers.
Oui, après, parce qu'on a eu la célébration et il y a toujours il y avait plein de chocolat et il y avait beaucoup et on a parlé ensemble, oui, bien sûr.
Monseigneur Christori, merci beaucoup.
On se retrouve
La semaine prochaine.
Volontiers.
Pour un nouveau numéro de Libre Propos. D'ici là, restez fidèles à Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
Exultez de joie, fils et filles de Sion, chantez le Dieu de gloire. Exultez de joie, fils et filles de Sion, que rien ne s'appelle. Exultez de joie, fils et filles de Sion, chantez le Dieu de gloire. Exultez de joie, fils et filles de Sion, que rayonne sa paix.
Acclamez sa parole, chantez le Seigneur, acclamez sa parole, proclamez son nom. Des plus hautes montagnes au fond des océans, danse le Dieu vivant.
Exultez de joie, fils et filles de Sion, chantez le Dieu de gloire.